Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce matin. Cette année, on va fêter en France et à l'étranger les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et à cette occasion, les Beaux-Arts de Paris vont exposer quelques dessins de Léonard de Vinci, quatre dessins de Léonard de Vinci et d'autres dessins de ses contemporains, des plus prestigieux comme Raphaël par exemple. Léonard de Vinci et la Renaissance italienne, c'est au cabinet de dessin Jean Benat jusqu'au 19 avril.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Emmanuel Brugerolles. Vous êtes conservateur général du patrimoine, responsable de la collection de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, une collection d'ailleurs riche de plus de 60 000 dessins dans 25 000 dessins de maîtres, et vous exposez pour la première fois chez vous 30 dessins pour marquer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Alors il y a 3 dessins du maître, je crois, et les autres, ce sont les dessins de ses contemporains. Donc parmi eux, les illustres Raphaël, je l'ai dit, mais aussi Gozzoli ou Lippi. Ces dessins, pour la plupart, ce sont des études préparatoires pour des toiles ou pour des sculptures.
Alors tout d'abord, je voudrais redire un petit mot par rapport à ce choix de dessin pour rappeler que tous ces dessins sont conservés à l'École des Beaux-Arts, puisque nous avons, après le musée du Louvre, la plus belle collection de dessins de France. Et nous y conservons en effet plus de 25 000 dessins de maîtres, et la partie italienne est conséquente, puisqu'en effet, nous présentons cette fois-ci 30 dessins de la fin du 15e au tout début 16e, et parmi ces dessins, il y a en effet 4 dessins de Léonard de Vinci. Justement, nous avons choisi de présenter cet ensemble parce qu'il permet de bien appréhender comment se passe la pratique du dessin au sein des ateliers à la fin du 15e et au début du 16e en Italie. Donc comment les artistes travaillent, comment ces jeunes artistes qui ont parfois 16, 17 ans arrivent dans l'atelier du maître, comment ils vont être formés petit à petit, comment ils sont formés à travers le dessin et ensuite comment ils vont préparer leurs œuvres, sculptures ou peintures.
Alors s'il fallait parler des dessins de Léonard de Vinci.
Alors s'il fallait parler des dessins de Léonard de Vinci, nous en avons 4. Et ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils nous permettent de percevoir la diversité de son approche. On a notamment un premier dessin qui est un dessin qui présente différentes figures à la plume encre brune et qui sont des premières pensées pour un tableau qu'il a réalisé à Florence en 1482, qui est une adoration des mages. Et vous avez là ces figures qui sont saisies en plein mouvement, dans des attitudes multiples, et qui sont vraiment plein de vigueur. Vous avez aussi 2 études de têtes de vieillards, qui sont en effet des recherches que Léonard a menées pratiquement toute sa vie, mais particulièrement là, on est autour de 1485-1490, et on voit qu'il est absolument sans concession par rapport à ce visage. Vous avez notamment une tête de vieillard où vous avez les joues tombantes, la bouche serrée, les plis sur le front et le crâne chauve. Donc, il se tente de saisir cette physionomie. Et évidemment, il y a cette philosophie sur la fuite du temps. Et enfin, vous avez un dessin qui est sans doute le chef-d'œuvre de l'exposition, qui représente des études de balistique, c'est-à-dire des projets pour des armures et des armes, puisque Léonard va être appelé en 1482 par Ludovic le Mort à Milan, non pas en tant que peintre, mais en tant qu'ingénieur.
Ingénieur, oui, parce qu'on a du coup le Léonard de Vinci, ingénieur, peintre.
Et puis des recherches sur l'homme, en fait, avec ses études de vieillard. C'est vraiment une réflexion sur l'homme que Léonard a menée toute sa vie.
Est-ce qu'on connaît l'histoire de tous ces dessins?
Bien sûr, on connaît leur provenance, notamment l'étude de balistique a appartenu au XVIIe siècle, et fin XVIIe, à Sir Thomas Lawrence, qui était un peintre anglais, qui était un grand collectionneur et qui a eu ce dessin entre ses mains. Ensuite, il a appartenu à un collectionneur français du XVIIIe siècle qui s'appelle Pierre-Jean Mariette, qui a collectionné plus de 6000 dessins, et ce dessin faisait partie de ses chefs-d'œuvre. Et enfin, il arrive chez nous en 1908. Et pourquoi arrive-t-il à l'École des Beaux-Arts ? Parce que les collectionneurs et les amateurs du XIXe siècle et du début du XXe avait une très haute idée de l'école. C'était un lieu où il se déroulait toutes les grandes expositions, c'était le grand palais de l'époque, et ils ont souhaité donner leur chef-d'œuvre dans un but pédagogique, afin que les élèves de l'école puissent se nourrir des grands maîtres et les étudier.
En ce qui concerne les trois autres dessins de Léonard de Vinci?
Pour deux autres d'entre eux, ils proviennent également de cette donation faite en 1908. Et pour le quatrième, il a été collectionné par un artiste qui s'appelle Édouard Gâteau, qui était donc un médailleur, graveur, qui a terminé à l'Institut, et qui avait une très belle collection de dessins et de gravures. Bien malheureusement, il habitait rue de Lille, et en 1870, rue de Lille, il y a eu un incendie important suite à la Commune, et donc une partie de sa collection a brûlé. Mais Dieu merci, en 1883, il nous lègue sa collection et nous avons un très bel ensemble de dessins qui proviennent de chez lui.
Ces quatre dessins de Léonard de Vinci qu'on peut voir, donc puisqu'ils sont exposés jusqu'au 19 avril au cabinet des dessins Jean Bonnat chez vous, aux Beaux-Arts de Paris, est-ce qu'on peut dire que c'est les seuls dessins de Léonard de Vinci que vous avez, que vous conservez ?
Nous conservons quatre dessins de Léonard, ce qui est déjà pas mal pour une collection publique française. Bien sûr, le Louvre en a plus d'une vingtaine et va les montrer cet automne puisqu'elle organise une très grande rétrospective sur l'artiste. L'Institut a aussi de très beaux carnets, des carnets extraordinaires où on voit tous les talents de génie en tant que mathématicien, poète, artiste et ingénieur de Léonard, mais c'est à la fois des croquis et des textes. Mais enfin, nous, on est quand même très heureux d'avoir ces quatre Léonards, ce n'est pas rien.
Emmanuel Brugerolles, est-ce qu'on peut dire que vous avez profité de cette occasion, c'est-à-dire la commémoration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, pour bien sûr montrer les dessins de votre collection, mais aussi pour montrer les dessins qui résumeraient l'ambiance, l'effervescence de son école, de la Renaissance italienne, puisqu'il y a d'autres dessins de d'autres maîtres qui sont exposés?
Bien sûr, c'était l'occasion. J'ai saisi cette année 2019 pour organiser cette exposition qui prend du temps parce qu'il faut revoir les dessins, revoir les attributions. Ça te prend du temps d'organiser, même s'il n'y a que 30 dessins, des dessins aussi prestigieux. Donc, en effet, il y a des œuvres d'artistes qui sont contemporains de Léonard, qui ont parfois séjourné dans le même atelier qui est celui de Verrocchio. Léonard va aller dans l'atelier de Verrocchio. Et vous avez par exemple deux feuilles de Francesco di Simone qui sont des études réalisées par ce jeune artiste qui essaye de s'approprier les motifs de son maître en étudiant des têtes, en étudiant des éléments architecturaux et des figures. Mais vous avez aussi des artistes comme Filippino Lippi, très proche de Botticelli, qui a représenté des figures pour en saisir l'attitude et aussi la pose du drapé. Drapé occupe une place très importante dans cette approche et cette formation à la fin du XVe siècle. Et enfin, vous avez une technique, si vous allez voir l'exposition, que vous découvrirez et qui va énormément vous séduire, qui est la pointe de métal sur papier préparé, qui est une des caractéristiques de ces artistes de la fin du XVe à Florence, qui va s'arrêter vraiment au début du XVIe, puisque c'est la sanguine qui ensuite va être beaucoup utilisée, cette pierre rouge que Michel-Ange, que Sarteau ou que Pontormo vont adopter. Mais cette technique de pointe d'argent sur papier préparé vous permet de donner un dessin extrêmement coloré par ces papiers qui peuvent être rose, vert, bleu, dont vous êtes vraiment pris par la beauté de ces feuilles.
Et ça résiste au temps ?
Oui, nos œuvres sont très bien conservées, parce qu'ils ont été peu exposés, donc profitez de l'occasion pour venir les voir, et ils sont en très bon état.
Et puis, il y a d'autres maîtres, vous venez de nous le dire d'ailleurs, Emmanuel Brugerolles, Raphaël par exemple.
Alors nous avons trois feuilles de Raphaël, la plus belle évidemment concerne une feuille qui est dessinée recto et verso, c'est-à-dire que Raphaël a utilisé les deux faces de son papier. Sur l'une des faces, il représente une étude pour une Madone, où il mène ses recherches sur le geste de l'enfant plein d'affection vers la Madone. Et au verso, vous avez de nouveau ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce papier préparé, légèrement rosé, où il a dessiné à la fois une étude de draperie, où là on voit bien ses liens avec Léonard, puisque Léonard a mené aussi énormément de recherches sur les draperies, et puis un profil d'homme.
Voilà, une tête d'homme,
où là on sent qu'il n'a pas cherché à idéaliser ce visage, qui est déjà légèrement ridé et concentré sur ses pensées.
Et est-ce que ça renvoie à des œuvres connues de Raphaël, à ses études préparatoires?
Oui, pour ce dessin, ça renvoie à des peintures religieuses qu'il a réalisées autour de 1508, c'est-à-dire avant de partir pour Rome. Il est encore à Florence à ce moment-là.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Léonard de Vinci et la Renaissance italienne, 30 dessins de la collection des Beaux-Arts de Paris exposés jusqu'au 19 avril au cabinet des dessins Jean Bonnat. Et nous sommes avec Emmanuel Brugerolle. Vous êtes, je le rappelle, conservateur général du patrimoine. Vous êtes d'ailleurs la responsable de la collection à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Alors, de cette collection de dessins, bien sûr. On a parlé des quatre dessins de Léonard de Vinci, qui est tout à la fois le prétexte pour vous, pour parler de toute la Renaissance italienne et pour montrer ces quelques trésors. Comment on déambule dans cette exposition?
Alors, tout d'abord, on est accueilli par une petite anecdote qui rappelle les liens que nous avons entre Léonard et l'École des Beaux-Arts. Il faut savoir que quand...
Vous l'appelez Léonard.
Tout d'abord, quand vous savez que la Joconde est volée.
Et vous avez joué un rôle primordial dans cette affaire.
On a joué un joli rôle, ouais. C'est-à-dire qu'on la retrouve à Florence en 1913. Et à ce moment-là, évidemment, la France veut la rapatrier au plus vite. Donc la Joconde prend le train. Et elle arrive le 31 décembre au petit matin à la gare d'Austerlitz.
Quelle année ?
1913. Elle est accueillie par des personnalités masculines qui l'emmènent tout de suite à l'École des Beaux-Arts, où là, le directeur de l'époque, qui était Léon Bonnat, un célèbre portraitiste, l'authentifie, la replace dans son cadre, puisque le voleur avait emporté la Joconde sans son cadre. Et puis, il est décidé que la Joconde sera exposée pendant 2 jours à l'École des Beaux-Arts.
Pour fêter l'événement
et pour que le public parisien se réapproprie cette héroïne, leur héroïne. Et donc, en effet, les Parisiens vont venir admirer cette Joconde pendant 2 jours. Et après, bien sûr, elle repasse la scène et est replacée au musée du Louvre. Mais cette anecdote était importante d'être mentionnée, puisque c'est ce lien aussi qui nous lie entre Léonard et l'École des Beaux-Arts. Sinon, quand vous arrivez dans cet espace, c'est un espace qui accueille des dessins. Donc, ce sont des œuvres de petit format. Donc nous avons fait une scénographie extrêmement raffinée avec des couleurs qui sont dans les verts pâles, avec des montages aussi qui ne sont pas des montages standards, mais nous avons mis des couleurs aussi en harmonie avec ces papiers préparés que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons aussi choisi de montrer au public que les dessins peuvent être dessinés des deux faces. Donc vous avez 7 dessins qui sont présentés recto verso, ce qui vous permet de comprendre comment un artiste travaille. Parfois on tourne sa feuille et puis on refait un dessin derrière. Donc ça aussi. Et puis il y a un appareil pédagogique qui accompagne chaque chaque dessin avec des cartels, avec des commentaires, replaçant l'œuvre dans son contexte de création.
Et l'ordre des dessins, j'allais dire l'ordre d'apparition de ces œuvres dans notre déambulation, dans cette exposition, Emmanuel Brugerol, comment ça a
elle
été
est légèrement, elle est légèrement chronologique, bien sûr. La chronologie soit resserrée, mais elle est quand même légèrement chronologique, puisqu'on commence avec un dessin de 1450 et qu'on va terminer avec des dessins du début du XVIe.
Pour arriver à ce choix de 30 dessins, avec un sujet bien particulier quand même, hein, autour de Léonard de Vinci, il s'agissait bien sûr de revenir sur la Renaissance italienne. Est-ce que ça a été l'objet de choix, de doutes, de sacrifices, pas ce dessin, même, ça sera pour une autre fois. Comment aujourd'hui on imagine ce genre d'exposition?
D'abord, il y a un espace hein, qui est quand même limité, donc il faut en fonction des cimaises dont on dispose, faire un choix autour de 30 à 40 dessins. Ensuite, je pars évidemment sur un corpus beaucoup plus large qui va se restreindre au fur et à mesure en fonction des recherches qui sont menées. Cette exposition, c'est une préparation.
Quels sont les critères qui décident, qui sont très forts finalement dans le choix des...
L'attribution.
L'attribution ?
L'attribution est fondamentale.
C'est-à-dire ?
Il faut, quand on commence ses recherches, il faut s'assurer que le dessin est bien de telle ou telle main. Donc on va mener des recherches avec beaucoup d'autres historiens, français, italiens, allemands, anglais, et on va aller jusqu'au bout de la recherche pour être sûr que le dessin est bien de tel ou tel artiste.
Vous voulez dire par là, Emmanuel Brugerol, que vous avez des dessins, mais vous ne savez pas exactement si ça vient de tel ou tel maître, de telle ou telle période ?
Pas pour tous, mais pour beaucoup, oui, il faut revoir les attributions. C'est toujours l'occasion de retravailler sur l'attribution, sur les provenances, et puis pourquoi est fait un dessin ? C'est passionnant de réfléchir à la fonction de ces dessins. Pourquoi ils ont été faits? Dans quelle optique l'artiste l'a dessiné? Est-ce que c'est pour s'approprier un motif? Est-ce que c'est pour concevoir un projet? Voilà, toutes ces questions, on se les pose chaque fois qu'on voit un dessin.
Et on se pose d'autres questions. Par exemple, ce dessin de Léonard de Vinci, on en a parlé en début d'émission, de ce vieil homme. Est-ce que Léonard de Vinci, est-ce qu'il a en face de lui un modèle ou pas?
Ça dépend. Il peut travailler de mémoire et puis il peut avoir aussi, on le sait, il avait des modèles en bois et en cire et il disposait sur ces modèles des draperies et ensuite il dessinait. Donc il travaille de toutes sortes de manières. Mais le modèle vivant dans les ateliers au XVe siècle, bien sûr, sont très importants. Et notamment lorsque j'évoquais les dessins de Lippi, on sait très bien que parfois on n'a pas un modèle particulier sous la main. Donc c'est le garçonnet, c'est-à-dire l'assistant, qui va poser pour le maître. Et il va prendre donc un vêtement et puis il va se positionner suivant l'attitude que le maître lui demande et puis il va dessiner.
Alors, dans cette exposition de 30 dessins, on a affaire quand même à des gens connus, à des maîtres. Est-ce qu'il y a d'autres dessins de gens moins connus, ou pour ne pas dire totalement inconnus, que vous avez exposé en disant ça peut donner une idée aussi de ce que c'était les ateliers à cette époque?
Oui, vraiment. Le propos de l'exposition, c'est comment fonctionnent les ateliers à la fin du 15e et au 16e en Italie. Donc, c'est vrai que c'était vraiment l'axe que j'ai souhaité développer dans l'exposition. Donc, il y a des artistes qui vont peut-être pas beaucoup parler à vos auditeurs, comme Timoteo Viti, mais qui a joué un rôle très important, qui est contemporain de Raphaël. Qui a
fait... Alors, pourquoi c'est très important pour vous, Emmanuel Brugerol?
Parce que cela permet au public de voir toutes les facettes du dessin à cette époque, comme vous évoquiez l'étude d'après le modèle vivant, la draperie, le projet pour une composition. Il y a une variété d'approches qui permet de bien percevoir le sujet.
Vous avez cité un exemple.
Timoteo Viti, nous présentons trois dessins. Donc là, ils sont exécutés à la pierre noire. Et ce sont des dessins très intéressants parce que c'est un modèle, justement un modèle nu, qui pose dans l'atelier et l'artiste est en train de saisir l'attitude dans laquelle le modèle est en train de poser de manière statique, hein, il n'est pas en mouvement. Donc vraiment, l'artiste saisit cette attitude, essaye de bien rendre aussi les ombres et les lumières sur ce corps, par ce travail de petits traits à la pierre noire extrêmement serré. Et pour la lumière, il utilise ce qu'on appelle la réserve du papier, c'est-à-dire laisser le papier vierge.
Et puis, puisque c'est quand même une commémoration de la mort du maître, Léonard de Vinci, est-ce que cette exposition de dessins rappelle aussi le caractère, j'allais dire, primordial, central de Léonard de Vinci dans cette époque-là, à cette époque-là?
Je ne sais pas si notre exposition, c'est l'objectif essentiel. Je pense que l'exposition du Louvre sera plus importante de ce point de vue-là, puisque l'exposition du Louvre sera entièrement consacrée à Léonard et qu'on en verra toutes les facettes. Je pense que surtout, c'est l'occasion pour le public de découvrir que nous avons une très belle collection de dessins à l'École des Beaux-Arts.
Et puis enfin, pour terminer, s'il fallait parler de ce que vous n'avez pas montré dans cette exposition, est-ce qu'il y a d'autres chefs-d'œuvre de cette période de la Renaissance italienne chez vous?
Oh ben, on a des dessins de l'école vénitienne absolument somptueux, de Tintoret, de Véronèse, de Titien, pour ne citer que cette école, mais nous avons aussi des dessins bolognais extraordinaires et de toutes époques. Et la collection de dessins français est extraordinaire aussi. Nous avons des œuvres de Poussin, de Lorrain, et j'oubliais l'école allemande avec des œuvres de Dürer et de ses contemporains comme Baldungrin. Donc la collection est fabuleuse.
Et comment on les conserve?
Les dessins doivent être conservés dans le noir, à une certaine température, puisque en fait, si on les expose trop longtemps à la lumière, le papier jaunit. Si vous mettez une feuille de papier au bord, sur le rebord de votre fenêtre, et que vous allez la voir quelques jours après, elle aura jauni. Donc nous devons être très respectueux pour la conservation des dessins.
Et vous les connaissez à peu près tous, ces 60 000 dessins de votre collection, Emmanuel Brugerolles?
Comme je suis là depuis longtemps, je les connais bien. Oui.
En dehors même de cette exposition autour de la Renaissance italienne et des quatre dessins de Léonard de Vinci.
Oui, bien sûr que j'ai des préférences sur certains dessins, bien sûr. On a des chefs-d'œuvre, hein. On a des chefs-d'œuvre de Dürer, on a des chefs-d'œuvre d'artistes maniéristes comme Pontormo, on a des œuvres de Géricault, La traite des nègres, qui est un dessin absolument fabuleux, qui n'a pas donné lieu à un tableau. Donc c'est seulement par le dessin qu'on conserve une idée de ce projet ambitieux qu'avait Géricault. On a des nus d'Ingres qui sont aussi de toute beauté. Et puis nous tentons aujourd'hui d'enrichir nos collections par des œuvres contemporaines, c'est-à-dire de professeurs et de jeunes artistes qui sont passés par l'école pour garder une trace des mouvements artistiques de l'école. C'est très important parce que après mai 68, les concours s'arrêtent. Hein. La revendication première des étudiants, c'est de supprimer le prix de Rome. Donc, c'est vrai que c'était sans doute plus adapté par rapport à ce qui se passait à l'époque dans Paris. Mais pour un conservateur, c'est la fin de l'enrichissement de ses collections, puisque par les concours, on s'enrichissait énormément. Donc, j'essaye depuis quelques années de combler ces lacunes en demandant aux professeurs, qui sont plutôt généreux, soit de donner des œuvres ou de les acquérir, et aux jeunes artistes de leur demander aussi de laisser une trace de leur passage.
Mais des jeunes artistes qui seraient passés par l'École des Beaux-Arts.
Oui, oui.
Qu'en est-il pour les autres dessinateurs, ceux qui sont autodidactes ou qui ont fait d'autres formations, enfin qui ne sont pas passés par l'École des Beaux-Arts, pour aller vite?
Je dirais que nous, on s'inscrit dans notre histoire. C'est très important. Déjà, ça fait beaucoup. Donc, je dois dire que depuis quelques années, maintenant, on a une jolie collection de dessins contemporains.
Est-ce que ces dessins voyagent dans le monde? Est-ce qu'on vous les demande? Est-ce que c'est tout aussi délicat que de pouvoir laisser un dessin participer à une exposition à l'autre bout du monde?
Alors, nous prêtons énormément. Ouais. Donc, vous avez en ce moment des tas de dessins de l'École des Beaux-Arts qui sont présentés dans les plus grands musées du monde, au Metropolitan, à l'Afrique Collection, au Musée du Louvre. Nous prêtons évidemment beaucoup, au Musée d'Orsay aussi beaucoup.
Comme si c'était des œuvres d'art, comme si c'était des toiles, c'est-à-dire avec tout le protocole d'assurance.
Le protocole, bien sûr, ouais. Et de convoiement. Ça, c'est capital. Donc l'œuvre est suivie de manière très très précise, à l'aller comme au retour.
Plus que jamais, il faut faire un tour si vous êtes à Paris ou si vous êtes de passage à Paris pour aller voir cette exposition Léonard de Vinci et la Renaissance italienne. C'est jusqu'au 19 avril au cabinet des dessins Jean Bonnin. Merci beaucoup Emmanuel Brugerolles d'être passé ce matin à nous en parler.